Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal des entreprises sur RCF. Avant la crise sanitaire, le secteur du bâtiment connaissait une certaine embellie. Celle-ci se poursuit avec des carnets de commandes bien remplis, mais le secteur souffre de deux problèmes majeurs. Le recrutement, tout d'abord, dans des métiers qui sont déjà habituellement en tension. Et puis dans une période où tout le monde recrute. Et puis la pénurie de matières, entre autres le bois. Avec nous pour parler de ces difficultés et du secteur du bâtiment, Yanis Borjon-Piron, qui est depuis un peu plus d'un an le président de la FFB de Maine-et-Loire, Fédération Française du Bâtiment. Il est aujourd'hui notre invité. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Alors on verra avec vous comment se porte le secteur justement, et puis on parlera aussi transition écologique, un sujet dans lequel vous-même, à titre de dirigeant d'entreprise, vous êtes très engagé. Mais auparavant, on commence tout d'abord cette émission avec quelques infos qui ont fait l'actu cette semaine dans le domaine économique en Maine-et-Loire.
Le journal des entreprises, l'actualité économique positive de l'Anjou.
Tout d'abord à Durtal, l'usine du groupe autrichien Wienerberger, qui emploie 60 personnes, produit 170 000 briques par an, a lancé en avril 2021 la Nature Brique, un produit à faible impact carbone. Cette brique intègre des biocombustibles issus des filières papetières ou agricoles, comme des coques de céréales. Mélangés à l'argile, ils permettent de réduire de 10 à 15% la consommation d'énergie nécessaire pour fabriquer une brique. Ils améliorent aussi ses performances thermiques. Le produit utilise 20% de matières premières en moins que pour une brique traditionnelle. Il est aussi moins épais et moins lourd. Et puis la Soclova, un bailleur présent dans 13 communes de l'agglomération angevine, annonce un partenariat avec une société nantaise, Tri & Collect, qui propose une solution de gestion et de valorisation des déchets de chantier. L'entreprise prend en charge plus de 13 types de matériaux différents pour en assurer le recyclage, parmi lesquels le plâtre, différents types de plastique, le bois, le verre ou encore les métaux. La collaboration a déjà débuté sur deux chantiers à Villevêque et à Angers. La Soclova veut intégrer cette démarche à moyen terme dans ses projets d'immobilier neuf, avec l'objectif de valoriser 90% de ses déchets de chantier. Et puis les chantiers de réhabilitation seront ensuite concernés par ce dispositif. Yanis Borjon-Piron, j'avais volontairement sélectionné ces deux infos. Je rappelle que vous êtes président de la FFB de Maine-et-Loire, Fédération Française du Bâtiment. Une brique bas carbone fabriquée en Anjou, la Soclova qui va recycler ses déchets. Tout ça, ça fait partie d'un mouvement fort dans le secteur du bâtiment. Comment ça se traduit, ce mouvement de volonté d'aller dans le sens de l'environnement?
Alors déjà, on voit bien que on est dans la mouvance de ce qui se passe actuellement au niveau de tout le monde, quoi. Et le bâtiment n'est pas en marge de cela. Alors ça se traduit effectivement, comme vous l'avez dit, par des matériaux qui sont dits bas carbone. On a le béton bas carbone, on a la brique maintenant bas carbone. On a donc un certain nombre d'innovations. Les entreprises du bâtiment sont dans l'innovation. On parle de maisons hors site, on parle de matériaux créés à base de déchets. Je pense notamment là au caillou de chez Néolith que j'ai lu qui allait sortir un béton à base de leurs matériaux recyclés, etc. La maison 3D, comme il y a eu l'exemple, enfin il y a l'exemple à Beaucouzé. Voilà, donc on est dans l'innovation, tout cela pour la transition écologique. Donc ça, c'est un premier point. Après, au niveau, vous l'avez également évoqué là avec la Soclova sur le tri des déchets, le recyclage des déchets. Là aussi, les entreprises du bâtiment s'engagent par rapport à cela via une association comme je pense là à l'ADEC dont je suis le président, qui travaille là-dessus avec les entreprises du bâtiment, mais chacun a des démarches dans ce cadre-là.
La FFB est très engagée aussi là-dedans.
Ah, la FFB est très engagée. Moi, c'est donc ça fait un an que je suis donc élu comme président de la FFB 49, et l'axe vert, le fil vert que j'ai appelé le fil vert de mon mandat, c'est la transition écologique. Donc qui passe par par l'innovation, par le réemploi, le recyclage, par toute la partie bien sûr économie d'énergie nécessairement, et qui passe également sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, on a lancé lors de notre AG la semaine dernière justement tout un groupe de travail à destination de nos entreprises adhérentes pour les engager sur la RSE et en faire un vecteur d'opportunité plutôt que de contrainte.
Vous l'avez dit, vous êtes président de la FFB 49 depuis un an. Qu'est-ce que ça représente, le secteur du bâtiment dans le département?
Alors, au niveau de la FFB 49, ça représente 450 entreprises, 6500 salariés, dont 70% sont des entreprises de moins de 10, hein, contrairement aux idées reçues qu'on représenterait les PME, les grosses PME. Non, c'est pas vrai. On a beaucoup d'entreprises de moins de 10 personnes. Voilà.
Alors elles sont confrontées à un problème, ces entreprises. Avant la crise sanitaire, il y avait du travail. Il y en a toujours, il y en a voire plus aujourd'hui, voire même plus aujourd'hui. Les carnets de commandes sont pleins, le secteur du bâtiment a du boulot, entre guillemets.
Effectivement, on avait du travail, comme vous venez de le dire, avant la crise. Depuis, on a toujours du travail, ça s'est amplifié, mais on est dans une situation complètement paradoxale. C'est que malgré des carnets de commandes qui sont pour certains, voire d'un an plus pour certains, on a des soucis de pénurie majeure que sont la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de matériaux et des surcoûts sur les matériaux. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, elle date pas d'aujourd'hui, malheureusement, mais elle s'est encore amplifiée à l'heure actuelle.
À quoi elle tient, cette pénurie de main-d'œuvre ? Est-ce que c'est... Il y a plusieurs facteurs, sans doute. Le secteur avait moins formé à une période. Le secteur a peine aussi à attirer les jeunes dans ces métiers.
Alors, je pense que la pénurie de main-d'œuvre, elle est liée à, effectivement à beaucoup de facteurs. Il y a une époque... Oui, là, j'étais déjà venu ici à l'antenne... Pour parler de cela, on formait moins les entreprises. Le souci des entreprises, c'est que si elles n'ont pas une visibilité de carnet de commandes, elles ont des difficultés à former des jeunes, à s'engager sur une formation, quoi. Ça, c'était vrai il y a quelques années, mais il faut savoir que pour former quelqu'un et qu'il devienne autonome, il faut globalement 8-10 ans pour qu'il devienne autonome. Donc là, on paye un petit peu les pots cassés des années il y a 8-10 ans. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Là, aujourd'hui, les entreprises, il y a à peu près 800 entreprises, 800 demandes d'alternants en apprentissage qui ne sont pas pourvues au sein des entreprises. Sachant qu'au niveau du CFA, de la branche BTP-CFA, les entrées en première année de niveau CAP ont augmenté de 32% par rapport à l'année dernière. Donc les entreprises veulent former, mais on a le souci de ne pas trouver de jeunes à former, notamment. Voilà.
Et pourtant, ce sont des métiers où on fait des vraies carrières, hein, métiers du bâtiment.
Complètement. C'est vraiment un ascenseur social. Hein. Ça se dit souvent, mais c'est exactement ça. Beaucoup de chefs d'entreprise ont commencé comme apprentis et puis ont monté les échelons au fur et à mesure. C'est un ascenseur social. C'est un métier tout à fait performant, enfin au niveau social, au niveau des salaires, on est sur des salaires qui n'ont rien à envier à un certain nombre d'autres secteurs, et au niveau des avantages également.
Le journal des entreprises avec Olivier Hamard.
Toujours en compagnie de Yanis Bourgeon-Piron, présidente de la Fédération française du bâtiment en Maine-et-Loire. Vous disiez les entreprises connaissent des difficultés de recrutement dans votre secteur. Est-ce qu'elles sont pas amplifiées par le fait que beaucoup de secteurs, quasiment tous les secteurs recrutent aussi.
Oui, effectivement, on n'est pas le seul secteur en tension aujourd'hui. Hein. Il suffit de se déplacer dans une zone artisanale ou industrielle et de voir sur toutes les clôtures recrute. Voilà, donc effectivement, on est comme tous les secteurs et c'est bien dommage à l'heure où on a 4 millions de chômeurs en France d'avoir ces difficultés-là aujourd'hui, quoi.
Alors les entreprises ont du travail, vous l'avez dit, elles peinent à recruter. Il y a aussi un souci dans votre secteur d'activité, celui du bâtiment, c'est le souci de l'approvisionnement. En quoi le secteur du bâtiment est touché par ces difficultés d'approvisionnement aujourd'hui ?
Alors déjà, faut se dire que c'est quelque chose effectivement de nouveau, puisque ça a commencé fin d'année 2020, à pointer son nez, comme on dit. Tout d'abord sur des matériaux type l'acier en début d'année. L'acier, on voyait des augmentations fortes, hein, de l'ordre de 15-20% tous les mois sur l'acier. Ça a duré jusqu'encore ces derniers mois. Et puis après, il y a eu le bois également qui a été fortement touché. Et là, c'était lié à des aspects complètement mondiaux, des relations mondiales entre les États-Unis et le Canada, entre des bois, une activité mondiale qui est repartie fortement aux États-Unis et notamment en Chine, et qui a monopolisé les ressources, y compris les ressources européennes, quoi.
Parce qu'il y a deux problèmes, il y a la pénurie de matériaux, de matière. Et il y a aussi le coût de ces matières qui a flambé.
Tout à fait. Alors, il y a la pénurie sur les matériaux que j'évoquais là, il y a quelques temps, qui ont été amplifiés par des augmentations. Le bois, pour ne citer que lui, a pris 300% en quelques mois. Et ça, comment nous le pouvoir le répercuter sur nos marchés, et c'est là une réelle difficulté aujourd'hui.
Parce que une pénurie de bois, ça impacte toute la chaîne du bâtiment. Ça veut dire qu'il y a des chantiers qui peuvent être à l'arrêt.
Ah bah complètement, des chantiers où le charpentier n'a plus de bois pour faire sa charpente, ça veut dire que derrière, bah tous les autres corps d'état intérieur, etc., bah, où également le couvreur ne peut pas intervenir, quoi. Donc ça veut dire du personnel qui risque de se retrouver à l'arrêt, en chômage partiel, ça se voit déjà aujourd'hui. Hein.
Vous avez demandé d'ailleurs au niveau national hein, à ce que le gouvernement intervienne dans ce domaine-là, par exemple pour le chômage partiel.
Oui, tout à fait. On a à dire, nous, le bâtiment, on a eu la chance de pas bénéficier d'aide pendant les périodes Covid parce qu'on n'en avait pas besoin, ce qui était très bien et que ça servit à d'autres secteurs qui, eux, en avaient besoin. Mais là, aujourd'hui, on aurait besoin d'un coup de main. Et effectivement, on a demandé que les taux de chômage partiel, qu'il y ait des taux bonifiés comme il y a pu y avoir lors des confinements, pour dans le cas de situation d'arrêt de chantier dû à la pénurie de matériaux.
Vous parliez pénurie de matériaux, hausse du prix des matériaux. Comment vous pouvez répercuter, vous, ça, sur vos marchés? Sachant que les marges dans le bâtiment, elles sont déjà pas très élevées. Hein.
Alors effectivement, nous, dans le bâtiment, on a des marges que 2% en moyenne. Lorsque les matériaux prennent 15%, ça risque de mettre en difficulté l'entreprise. Alors, c'est très compliqué aujourd'hui de répercuter ces augmentations sur tout ce qui est marché privé. C'est quasiment impossible, à part négocier et que le client comprenne bien ses hausses et qu'il accepte de modifier son budget en conséquence. Alors des fois, ça passe par carrément des modifications de projet. Il y a une pièce qu'on va pas faire. On va pas faire une lingerie, par exemple, chez un particulier. Le marché public, on a la chance d'avoir des indices d'indexation, des indices de révision et d'actualisation des prix. Toujours est-il qu'il faut qu'il soit appliqué. Souvent, il y a un délai de 3 mois déjà pour appliquer ces indices. Et là, on est en négociation au cas par cas entre l'entreprise et le maître d'ouvrage.
Comment est-ce que vous envisagez une sortie de cette situation? Est-ce qu'on peut l'envisager? Parce que c'est encore très flou pour l'instant.
Aujourd'hui, c'est encore très flou, oui, tout à fait. On ne sait pas au niveau des coûts jusqu'à quand ça va continuer. Hein. Je vous dis, moi, chaque mois, je reçois des courriers de mes fournisseurs m'indiquant 15% de hausse sur tel ou tel produit. Donc souvent, entre 5 et 20% sur chacun des produits. Donc on ne sait pas du tout aujourd'hui jusqu'où ça va aller. On espère qu'en fin d'année, ça va se calmer et puis qu'on va aller vers une phase descendante. Mais on peut aussi se dire qu'on ne descendra pas là, du même niveau que ce qu'on a monté.
On était avant la crise, ouais. Les gens se soucient de leur intérieur aujourd'hui. Il y a le télétravail. Vous disiez que ça peut apporter aussi des modifications dans les maisons. Les gens font faire des chantiers. Il y a tous les programmes de rénovation énergétique. Ça veut dire qu'il y a du boulot encore pour plusieurs années dans le secteur du bâtiment?
Au moins plusieurs mois. effectivement, les gens qui étaient en télétravail, ils ont vu leur maison pendant des mois, puis ils se sont dit, tiens, ce serait pas mal que j'améliore ça, etc. Il y a eu également le plan de relance qui a beaucoup fait pour notre secteur avec MaPrimeRénov. Le Maine-et-Loire est l'acteur en ce moment, l'acteur des ministres qui défilent là sur le plan de relance et MaPrimeRénov. Donc voilà, oui, il y a encore de l'activité pour un certain nombre de mois, je l'espère et j'en suis intimement persuadé.
Merci beaucoup en tout cas Yannis Bourgeon-Piron d'avoir été notre invité. Très bonne fin de journée, à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l'activité économique angevine.